de nous donner des résultats. Mais avant, donc nous continuons nos ateliers sur les droits du Fils de l'homme et notre étude de ce matin, 13 août 1980, et l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 14 à chapitre 6. Alors, mes amis, je vais essayer d'être aussi bref que possible. Une fois de plus, je suis heureux de voir que vous avez bien couvert ces deux chapitres qui étaient devant nous. Et je vais essayer de condenser, de résumer. Que savez-vous d'un souverain sacrificateur? Dans l'Ancien Testament, le premier souverain sacrificateur du peuple d'Israël fut Aaron, qui était le frère de Moïse. Sa fonction consistait à représenter le peuple auprès de Dieu et à offrir à Dieu, comme vous l'avez compris, des holocaustes et des sacrifices. Une fois l'an, il pénétrait avec le sang des victimes dans le lieu très saint du tabernacle. Vous savez que le tabernacle était divisé en deux. Le lieu saint, où se trouvait la table des pains de proposition, et l'autel d'or, l'autel de l'encens, et le chandelier à cette frange. Puis il y avait le voile, et à l'intérieur du voile se trouvait le lieu très saint avec l'arche de l'Alliance qui était couverte par le propitiatoire sur lequel étaient deux chérubins qui touchaient de leurs ailes, deux chérubins d'or et dont les ailes se touchaient. Et c'était là que la présence du Seigneur se manifester, mais seulement une fois par an, le souverain sacrificateur devait y entrer avec du sang pour faire propitiation pour ses péchés à lui d'abord et ensuite pour les péchés du peuple. Alors c'est tout l'Ancien Testament que vous pouvez lire au sujet justement de l'office du souverain sacrificateur descendant donc de quelle tribu? De Lévi. Et quand vous examinez les vêtements du souverain sacrificateur, bien vous apprenez beaucoup de choses à ce sujet. Il était revêtu d'une grande robe qu'on appelle l'éphod, et sur l'éphod, sur sa poitrine, il y avait ce qu'on appelait le pectoral de l'éphod, et qui était un ornement rectangulaire, et sur cet ornement rectangulaire se trouvaient 12 pierres précieuses, et sur chaque pierre était gravé le nom des 12 tribus d'Israël. Et sur les épaulettes de l'éphod, il y avait de chaque côté 2 pierres, et sur ces 2 pierres qui étaient sur les épaulettes de l'éphod, était aussi gravé le nom des tribus d'Israël. De sorte que, quand le souverain sacrificateur se présentait devant Dieu dans le Saint des Saints, il portait sur son cœur, siège de ses affections, les noms des 12 tribus d'Israël, et il les portait aussi sur ses épaules, siège de la force. Hein, on porte ça sur ses épaules. Eh bien, voilà l'office du souverain sacrificateur. Toutes ces choses étaient une image de ce que ferait Jésus, notre souverain sacrificateur, qui lui, devant Dieu, nous porte sur son cœur, siège de ses affections, et nous porte comme le bon berger sur ses épaules. Voilà ce que nous trouvons en résumé sur le souverain sacrificateur et son sacerdoce. Mais Aaron était un type, n'est-ce pas, de celui et qui devait venir. Et il y avait aussi au bas de la robe du sacrificateur un ornement et des clochettes, une clochette, une grenade, une clochette, une grenade. De sorte que c'était tellement extraordinaire d'entrer dans la présence de Dieu, le peuple était à l'extérieur. Et pour savoir vraiment si l'homme n'était pas mort, parce qu'on pouvait mourir, vous vous souvenez que deux des fils d'Aaron sont morts parce qu'ils se sont permis de présenter un feu étranger dans la présence de Dieu et ils sont tombés morts. Alors les clochettes signalaient que le sacrificateur était vivant. Quand il se déplaçait, on entendait les clochettes d'argent et le peuple était rassuré. Il y a eu un moment avec Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui avait eu une vision alors qu'il présentait justement les parfums. Quand il est sorti un peu tardivement, eh bien, le peuple était un peu angoissé en se demandant ce qui lui était arrivé. Et Zacharie, il était devenu muet. Alors, ils ont compris qu'il avait eu une vision. Et il y aurait des choses absolument passionnantes, mais je vous dis simplement ça pour vous orienter dans votre recherche. Il doit être donc fidèle, miséricordieux, vous l'avez vu. Et Jésus, qui était en même temps prophète et roi, est aussi un souverain sacrificateur. Vous savez que dans l'ordre que Dieu avait établi, la royauté devait venir de Judas et la sacrificature devait venir de Lévi. Et personne d'autre que ceux de la tribu de Lévi ne pouvait être sacrificateur. Or, Jésus est sacrificateur, donc c'est bien d'un nouvel ordre de choses qu'il s'agira, puisqu'il ne vient pas de la tribu de Lévi. Il y a changement de sacrificature avec Jésus. Et vous l'avez aussi compris, le sacerdoce de Jésus est plus excellent que celui d'Aaron et de ses successeurs, parce que justement, le rôle de souverain sacrificateur prenait fin pour ces hommes, par quoi ? Par la mort. Ils mouraient et il fallait qu'il y ait un nouveau souverain sacrificateur, tandis qu'avec Jésus, nous avons un sacrificateur qui ne peut pas mourir. Et c'est le même qui nous représente éternellement. Il faut, pour être souverain sacrificateur, vous l'avez aussi souligné, être appelé par Dieu. Eh bien, Jésus a été appelé lui-même, comme on le voit dans un psaume, psaume 110 en particulier, qui nous occupera aussi, « Tu es souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. » Vous vouliez dire ? Ah ben c'est demain. parce que si on veut avancer, n'est-ce pas, on va laisser Melchisédek pour demain. Melchisédek, si tu veux lire un peu son histoire, c'est dans le chapitre 14 du livre de la Genèse que tu peux trouver. Il était roi de Salem, c'est-à-dire de Jérusalem. Roi de justice, roi de paix. Et il est apparu à Abraham. Alors, deuxième question. Donc, le sacerdoce de Jésus, il l'exerce où ? Dans le ciel, tandis que les sacrificateurs l'ont exercé dans le tabernacle durant la traversée du désert, à Silo sous la tente, et puis ensuite dans le temple de Salomon à Jérusalem, puis aussi dans le second temple construit par Zorobabel, Josué au temps d'Esdras et de Néhémie, et dans le temple restauré par Hérode au temps du Christ. Quand Jésus paraît, le temple a été restauré par Hérode, et c'est dans ce temple que Jésus allait et qu'il a appelé une caverne de voleurs. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Alors, deuxième question. Qu'apprenez-vous de nouveau au sujet de la vie terrestre de Jésus? Eh bien, étant fils de Dieu, il aurait pu, par son incarnation, grandir dans la dépendance de Dieu, comme aurait pu le faire Adam s'il n'avait pas désobéi, et Adam aurait passé de l'innocence à la conscience et à la sainteté, en restant soumis à Dieu dans la communion avec Dieu et atteignant cette maturité sans péché, hein, sans avoir été tombé dans le péché, il serait parvenu à la gloire de Dieu et ayant atteint la maturité, il serait entré dans la gloire à laquelle il était destiné sans passer par la mort, les humiliations du sépulcre ou attendre une résurrection. Nous avons des hommes qui sont une image de ce qui aurait pu arriver, lesquels, par exemple, Enoch et puis Élie, n'est-ce pas? Et qui sont les deux hommes qui sont entrés dans la gloire sans passer par la mort. Mais Jésus, lui, évidemment, il pouvait remonter au ciel sans passer par la mort. Vous avez cette image lors de la transfiguration, tout à coup, les disciples sur la montagne, que ce soit le Tabor ou que ce soit l'Hermon, peu importe, mais on nous montre plutôt le mont Tabor en Galilée, où soudainement il fut transfiguré devant trois de ses disciples, ses intimes, Pierre, Jacques et Jean, et il le voit dans un vêtement de gloire. Ses vêtements deviennent resplendissants comme le soleil, alors qu'il était certainement poussiéreux, allant de lieu en lieu, faisant du bien, et son visage si fatigué, eh bien, tout à coup n'a plus de rides, parce que Jésus, à l'âge de 33 ans, on lui donnait environ 50 ans, tellement son visage était défait et abattu, plus que celui d'aucun homme. Vous vous rendez compte combien peu il dormait. Et alors, on se dit, mais pourquoi, puisqu'il était le Fils de Dieu? Eh bien, il a voulu, justement, lui qui était sans péché, il a tout de même voulu une humanité soumise aux conséquences du péché. Ce qu'il a pris sur lui, dans sa nature humaine, c'est toutes les conséquences du péché. Pas le péché, hein. Le péché, il allait le prendre à la fin. Mais il était sans péché, mais dans une nature humaine soumise aux conséquences du péché. De sorte que Jésus a été réellement un enfant, c'est faux comme le Coran voudrait nous le dire, que le premier jour où il est né, il a fait un long discours à sa mère Marie. On voulait que je parle de cela au mariage de Benoît Diébol. Son beau-père, qui était musulman, est venu me trouver en me disant, vous pourriez bien citer le Coran, nous aussi nous croyons en Marie. Et puis il aurait voulu que je parle de cette sourate où le premier jour de sa naissance, Jésus fait un long discours à sa mère. Je dis, mais vous comprenez bien, cher ami, que je ne peux pas dire une chose de ce genre. Parce qu'au temps où on démythologise tout, personne n'y croirait. Et vous-même, vous n'y croyez pas. Alors j'arrangerai les choses pour que vous, les musulmans, vous ayez aussi votre place à l'église où je prêchais, à Passy, à l'église de l'Annonciation. Mais je ne citerai pas le Coran, mais je parlerai d'Ismaël, bien sûr, et du fils d'Abraham. Bon, alors, Jésus a été un enfant, il a eu un développement humain, vous le voyez à un jour dans l'évangile de Luc, vous le voyez à 8 jours à l'occasion de la circoncision, vous le voyez à 40 jours au moment où Marie le présente au temple à Siméon, et puis ensuite vous le voyez à l'âge de 12 ans, et quand il fait son premier voyage à Jérusalem et qu'il reste au milieu des docteurs, que sa mère et son père le cherchent pendant 3 jours, et enfin il commence son ministère alors qu'il avait environ 30 ans. N'est-ce pas? Donc vous voyez qu'il a eu un développement humain. Il a été fatigué, il a eu de l'angoisse aussi, il a eu soif, il a eu faim. on le voit dormir même au sein d'une tempête, tant est grande sa fatigue. Il a eu des moments où ça lui était dur de vivre au milieu des hommes, quand il s'écrit « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Car il vivait au milieu d'hommes grossiers pour la plupart, qui n'avaient aucun égard pour lui et extrêmement peu de politesse, et qui voulaient avoir la première place, comme nous l'avons vu, et qui n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde que le Seigneur Jésus vis-à-vis des païens ou d'autres personnes. Eux voulaient faire descendre ceux du ciel, alors que lui pensait à les amener au salut. Comprenez-vous? Alors, il a été vraiment l'étranger sur la terre, le grand solitaire, mais il s'écriait à certains moments, « Vous me laisserez seul. Toutefois, je ne suis pas seul, parce que le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Mais il allait connaître pourtant la solitude suprême, qu'en non content d'avoir voulu porter nos maladies, entrer en sympathie avec tous les maux que nous pouvons connaître, pleurant devant le deuil d'une femme qui a perdu son enfant, il mêle ses larmes aussi aux larmes de Marie à l'occasion de la mort de Lazare, il pleure avec les sœurs de Béthanie. Eh bien, ce Jésus, si humain, accepte d'être ses péchés pour nous, et alors là, il va connaître l'abandon suprême. Alors, ce qu'on apprend de la vie terrestre du Seigneur, vous avez ce passage qui m'a toujours beaucoup impressionné, et qui nous le montre en quelque sorte, à quel endroit. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire durant sa vie humaine, hein, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, a été exaucé à cause de sa piété. Qu'est-ce que c'est que la piété? C'est notre relation avec Dieu. Constamment en relation avec Dieu, le Fils ne pouvait qu'être exaucé. Mais il a été l'homme modèle. Et il nous est montré aussi comment nous pourrons être exaucés, c'est en maintenant une relation avec le Seigneur. Mais ces espèces de gens qui ne prient que quand ça va très mal, eh bien, il ne faut pas toujours qu'ils s'attendent à être exaucés. Mais si vous avez conscience qu'auprès du Seigneur, auprès du Père, vous avez un grand souverain sacrificateur, et qui vous représente vraiment, et si vous vivez en communion avec lui, eh bien vous sentez que vous avez toujours accès, quel que soit le moment du jour ou de la nuit, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, vous savez que vous avez toujours accès à ce trône de la grâce, qui est comme une ville ouverte. Je déteste ces expressions qu'on entend dans certains milieux, « Nous assiégeons, Seigneur, le trône de la grâce ». Comme si on devait faire le siège du trône de la grâce. C'est une ville ouverte. Approchez-vous du trône de la grâce. Le Seigneur vous a ouvert un chemin. Il n'y a pas besoin de faire un siège, n'est-ce pas? Comme si le Seigneur, on devait arracher au Seigneur une bénédiction. Saisissez les bénédictions, approchez-vous. Saisissez la bénédiction, elle est là, vous êtes béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Si vous ne les avez pas, c'est que vous vous êtes chargé de trop d'autres choses et vous avez les mains pleines. Et alors, le Seigneur ne peut rien vous mettre dans les mains. Lâchez ce que vous avez et alors, vous pourrez saisir les bénédictions et recevoir du secours au moment opportun et un secours qui vient directement de Dieu. Mais comme nous avons pris des assurances touristes, des assurances contre le risque d'un miracle, nous ne voyons plus de miracle, n'est-ce pas? Parce qu'on s'arrange nous-mêmes. Toi, le ciel t'aidera. Trouvez-moi ce verset dans l'Écriture. Vous l'entendez constamment, même quand on va à Saint-Benoît-du-Lac, un cher père que j'aime bien, là, il me répéterait toujours la même chose. Comment faites-vous à Mahanaïm pour demander si peu d'argent et puis les nourrir comme ça? Il est quand même dit, aide-toi, tu le t'aimeras. Et je crois qu'il cite l'écriture. Non, ça ne se trouve pas dans la Bible. On recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données par ce croix. Mais vous voyez, quand on ne lit pas la Bible d'une façon régulière, on peut être moine, on peut dire qu'on est déjà entré dans l'éternité, et puis ne pas connaître beaucoup les pensées du Seigneur, ce qui n'enlève rien à l'affection profonde que j'ai pour ce cœur. Alors, nous continuons, et je pense que vous avez vu Jésus en Gethsémané, qui est là, qui prie avec larmes, avec des grands cris. Et pendant qu'il prie ainsi, qu'est-ce que ses disciples font? Ils dorment. Pierre, tu dors? Tu n'as pas pu veiller une heure avec moi? Et pourtant, qu'est-ce qu'il avait dit, Pierre? Quand même tous te renieraient, moi, je ne te renierai jamais. Et alors, quand il se réveille, alors là, il veut quand même montrer que, oui, il se repent de son sommeil et qu'il sait quand même faire quelque chose. Il sort son épée et puis, au lieu de fracasser le crâne d'un type, il lui coupe une oreille seulement. Il a raté une oreille coupée. Il donne du travail au Seigneur. Mais il ne sait pas même se battre, hein, parce qu'on ne coupe pas une oreille quand on se bat. Hein. On y va au bon endroit. Alors, le Seigneur doit se baisser, ramasser l'oreille et la recoller. Alors, c'est tout ce que Pierre a fait. Et puis après, pendant quelques heures plus tard, il dira, à cause d'une petite servante, dont il a peur de ce jupon-là, alors, je ne connais pas cette femme. Et avec imprécation, à trois reprises, il renie son maître qui lui avait lavé les pieds. Mais oui, on t'a vu dans le jardin. C'est ces gens-là qui a quand même écouté ton accent. Tu parles voile. C'est le Galiléen. Hein? On te reconnaît à ton accent. Mais voilà, vous voyez comme la parole est vivante, la parole est actuelle, elle vous prend, elle vous poigne, comme vous dites. Est-ce qu'elle vous a déjà poigné, la parole? Juste dans les tripes, comme vous dites aussi. On a ça dans les tripes. Hein? Ah oui, ça veut dire quelque chose. Alors, quelles sont les vraies raisons qui entravent notre compréhension des choses spirituelles? Bien, vous l'avez très bien vu, c'est de rester un bébé en Christ. Or, on a préparé son petit Moïse pour l'enfant qui va naître, hein, puis on espère qu'il restera toujours. C'est ça votre conception? Non. Le petit Moïse où l'on dépose son enfant qui vient de naître, c'est pour un temps. Mais vous ne voudriez pas que votre enfant reste toujours là, couché, et que vous ayez toujours à l'emmailloter, à changer ses langes. Mais un jour, eh bien, l'enfant commencera à marcher, il doit se développer, de sorte que la conversion, la nouvelle naissance, c'est pas la fin. C'est le commencement de l'œuvre de Dieu en nous. Ce qui ne veut pas dire, et vous aviez parfaitement raison, n'est pas que Dieu ne s'est pas occupé de nous avant, mais on n'en était pas conscient. Seul de tard, Dieu l'aimait même quand il était persécuteur des premiers croyants, car il est dit que Dieu l'avait choisi dès le ventre de sa mère. De sorte que Dieu ne s'occupe pas de nous seulement depuis le jour où nous lui disions oui, oui, mais on en prend conscience de ces soins de Dieu, on est émerveillé quand on voit ce qu'il a déjà été pour nous quand nous ne le suivions pas. Il ne nous a pas laissés, même quand nous étions encore païens, eh bien, le Seigneur nous aimait et nous donnait déjà de la joie. Quand vous avez eu vraiment des joies, même sans connaître le Seigneur, ces joies, elles venaient du Seigneur, puisqu'il est dit que c'est lui qui donne la joie aux païens en leur donnant les pluies et les saisons fertiles, etc. Mais voilà, une fois qu'on est au Seigneur, qu'on est sauvé, ne disons pas, comme dans la version que Josaphat a employée, bon voilà, il y a tant d'années que je suis converti. Hein. Ça ne m'impressionne pas beaucoup. Je voudrais te voir converti aujourd'hui. Je voudrais voir les fruits de la vie de Dieu aujourd'hui. On ne voudrait pas que vous restiez des bébés entiers. Je me souviens en 1960, lorsque je suis venu pour la première fois au Québec, seulement pour 3 mois, eh bien, des gens m'ont dit, des prédicateurs, vous savez, comprenez bien qu'au Québec, on ne peut pas leur enseigner des grandes vérités. Il faut juste leur annoncer le petit salut, parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre davantage que le petit salut. Il faut être content que nos Québécois soient juste sauvés. Les bras m'en tombaient. Évidemment, c'était des prédicateurs anglais qui disaient ça, mais qui travaillaient. Non, ça n'arrangeait pas très bien les choses, mais j'ai dit, mais comment? Mais ils ne peuvent pas comprendre plus, il faut être content qu'ils soient juste sauvés. Et alors, moi, j'ai vu un Canadien français qui me disait, il m'avait envoyé invité pour manger avec lui dans un barbecue quelque part, et puis il me disait, vous savez, monsieur Racine, ici nous, les Canadiens français, on est des sauvés, mais on est charnel. S'il était resté en disant, on est charnel, hein. On n'est pas comme ce frère-là anglais, hein, mais c'est un anglais, alors lui il est spirituel, mais nous on est charnel. Et puis après il me disait, je voudrais bien me marier, et puis il regardait les serveuses, il me disait, vous qui voyagez beaucoup, vous ne pourriez pas m'en trouver une en France un peu comme ça, là, qui disait, comme le maquignon avec ses mains, n'est-ce pas, les formes, par devant, par derrière, bon, et puis, alors... C'était la photo robot pour que je lui amène une petite bonne femme de France. Oh, je suis un chrétien charnel. Hein? Il la voulait d'une certaine hauteur. Ça me faisait penser aux marchands de bestiaux, n'est-ce pas, et qui vont tâter les vaches ou les genisses pour voir si elles ont le calibre qu'ils désirent. Alors, on est sauvés. Il y a 4 ans, il y a 5 ans, je suis un sauvé. Mais je voyais rien au bout de son nez qui me parle de son salut. Parce que vous savez, quand les gens me font certaines descriptions, leur nez bouge. C'est pas juste être sauvé, c'est pas avoir piégé le salut par la foi. Oh, j'ai compris, c'est par la foi. C'est pas par les œuvres, hein. Alors il n'y a plus d'œuvres. On est sauvé par la foi, il n'y a plus d'œuvres. Et c'est ça le drame. Et c'est pourquoi j'ai compris et que j'ai aimé les Québécois, parce que je me suis dit, même s'il y en a qui n'ont pas une grosse instruction, parce qu'ils ont eu, ils sont des enfants d'une très grande famille, eh bien je les aime, parce que l'instruction, c'est pas l'intelligence. Hein. Heureux ceux qui ont pu avoir de l'instruction. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait parmi des gens qui n'ont pas même été à l'école ou qui ne savaient pas lire, des gens qui avaient la possibilité de recevoir une culture, si on les aimait, si on les servait, si on essayait de développer en eux les dents, parce qu'ils ont du bon sens. Et il y a des gens qui se sont mis à lire, à apprendre à lire à l'âge de 50 ans. Ben moi, je lève mon chapeau, même si j'en mets pas. Et parce que je trouve que ça, c'est merveilleux. À 50 ans, un homme qui se convertit, qui était tenancier d'un restaurant, et puis qui se met à lire pour pouvoir lire quoi? Les journaux? Non, la Bible. Hein. Eh bien, ça, c'est vraiment merveilleux. Alors, là, vous voyez quelqu'un qui a voulu non seulement se contenter d'être sauvé, mais il a voulu lire la parole, il a une vie de prière. Alors, si on ne lit pas la parole, si on n'a pas une vie de prière, et si on ne s'exerce pas à la piété, c'est cela, à avoir une relation personnelle avec Dieu, alors on garde peut-être des formes de piété, on va aux assemblées, on va à la messe, on va au culte, mais tout en ayant ces formes, on renie ce qui fait la puissance de la piété, hein, l'authenticité d'une vie réelle avec Jésus. Et il vous faut lire l'Écriture. Est-ce que vous prendrez cette décision dans votre cœur de lire pour vous-même l'Écriture? Parce que c'est comme toute chose, il faut apprendre à lire l'Écriture. Comment nagerez-vous? Il faut apprendre. On a vu quelqu'un, je l'ai raconté quelques fois, qui était sur le bord de l'eau, et puis on lui a demandé, qu'est-ce que tu attends? J'attends de savoir nager pour se mettre à l'eau. Ben, il attendra toujours. Jette-toi à l'eau, et puis tu apprendras à nager. Il faut donc se plonger dans les Écritures. Si vous dites, mais je comprends pas, c'est pas nécessaire que tu comprennes pas tout. Si vous dites, j'ai pas de mémoire, c'est pas nécessaire que tu retiennes tout. Le Saint-Esprit deviendra ta mémoire. Et comme je l'ai souvent souligné, la lecture de la parole a un effet purificateur sur nous. Vous connaissez l'histoire du pêcheur avec son panier tout boueux, qui était avec un serviteur de Dieu, un panier d'osier tout boueux, et il disait qu'il n'avait pas de mémoire, que ça lui servait à rien de lire la Bible. Et alors cet ami lui a dit, est-ce que tu pourrais, puisqu'ils étaient à la pêche les deux, remplir ton panier d'eau, puis m'apporter un peu l'eau? Puis il dit, mais t'es fou, tu te moques de moi, mon panier, c'est un panier d'osier, je peux pas, mais va simplement, ramène-moi un peu d'eau. Puis il insistait tellement, alors il est allé, puis il a ramené son panier, mais évidemment quand il est arrivé vers son ami, il n'y avait plus d'eau, toute l'eau était partie. Puis il lui dit, ben recommence encore une fois. Puis il y avait faire ça cette fois, un peu comme il s'inspirait de l'histoire de Naaman le Syrien. Mais la septième fois, l'homme a cru vraiment qu'il se moquait de lui. Et puis, il a jeté son panier, on dit, enfin, cette fois, c'est fini. Il dit, oui, mais regarde ton panier. Tu ne trouves pas qu'il a changé? Bien. Oui, il est propre. Enfin, il n'avait rien retenu comme mot, mais il était propre. Tandis que là, avant, il était tout pourreux. L'effet de la parole de Dieu, même si vous ne la retenez pas, elle vous lave, elle vous purifie. Ça, c'est quelque chose de vrai et que vous pouvez connaître. Alors, reconnaissez-vous votre portrait dans les versets 11 à 14 du chapitre 5? Bien, hélas, c'est souvent le cas. C'était l'état des Corinthiens, ils étaient restés des bébés en Christ. Ils avaient pourtant tous les dons, mais avec tous ces dons, eh bien, on vivait même dans l'inceste. Il y avait de l'impudicité parmi eux. On tolérait le péché au lieu de le confesser et de l'abandonner. Il y avait des querelles. Et les querelles, ça vient du Saint-Esprit? Non. Il y avait des divisions. Les divisions, est-ce que ça vient du Saint-Esprit? Souvenez-vous toujours de cela, le Saint-Esprit sépare du mal et du monde, mais ne divise pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont divisés par les œuvres de la chair. Mais c'est pas au nom du Saint-Esprit qu'on se divise, c'est pas vrai. On peut vous rejeter, ça c'est une autre affaire, mais vous n'avez pas un esprit schismatique et un esprit de division quand le Saint-Esprit vous anime. Hélas, les gens auxquels l'apôtre anonyme écrit étaient devenus lents à comprendre, lents aussi à croire, comme les disciples après la résurrection. Et ces obstacles à notre foi, eh bien, nous les connaissons, c'est justement de jouer encore avec le péché. Et de qui? Un instant. Nous en étions où? Oui, alors, je disais que c'est non seulement des péchés positifs qui font de nous des mauvais chrétien, mais simplement aussi l'abus des choses légitimes, comprenez-vous? Il faut aller plus loin que l'abandon de péchés positifs, mais quand on abuse de choses légitimes, eh bien, nous ne sommes plus vraiment des témoins, et nous sommes appesantis par le manger, par le boire. Voyez-vous, même quand on vient dans une réunion, quand on a trop mangé, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On s'endort, n'est-ce pas? Alors, nous devons arriver à une certaine discipline. Il y a des choses peut-être qu'on aime bien, qui ne sont pas mauvaises en soi, mais enfin, pas un témoignage d'abuser de certaines de ces choses. Et ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit dans la vie conjugale, c'est pas parce qu'on est marié qu'on peut abuser de sa femme ou de son mari, ce qui arrive aussi. Hein. Il y a... Et le Seigneur est aussi bien à la cuisine que dans notre chambre à coucher et que dans toutes nos voies. Et c'est lui qui doit contrôler tous nos désirs. Et il y a aussi, surtout, cet amour du monde. On ne sait pas faire cette séparation avec le monde. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Prenons maintenant la cinquième, cet élément qui forme les fondements de la foi chrétienne. Bien, vous les... La repentance qui nous détourne du péché, la repentance, c'est métanoïa en grec, qui est ce changement d'orientation. On se repent, se repentir, c'est se détourner du péché, c'est aussi renoncer à toutes ces œuvres mortes qu'on faisait plus ou moins pour avoir quelques mérites devant Dieu. Si c'est là le mobile de nos œuvres, elles sont mortes. Les œuvres que Dieu agrée sont des œuvres accomplies par la foi, n'est-ce pas? Les œuvres de la foi. C'est ainsi que se concilie la théologie de Paul avec la théologie de Jacques. Il n'y a pas de contradiction. La foi qui sauve, c'est une foi qui produit des œuvres. Les œuvres qui sauvent, c'est des œuvres qui sont produites par la foi. Ce sont deux aspects d'une même vérité. Alors, la foi en Dieu, c'est pas seulement croire que Dieu existe, mais c'est croire ce que Dieu nous dit. De nous-mêmes, d'une part, et ce qu'il nous dit de son Fils. Voilà les bases de la foi chrétienne. La doctrine des baptêmes, il est parlé de plusieurs baptêmes, il y a la différence entre le baptême de Jean, qui était un baptême pour la repentance, qui manifestait la repentance, puis le baptême de Jésus, le baptême chrétien, et qui est notre identification au Christ dans sa mort. Mais tout cela, ça devrait être compris. Différence entre le baptême de Jean et différence entre le baptême de Jésus. On est baptisé pour la mort de Jésus. On manifeste qu'on a renoncé à notre vie propre, que notre vie propre, on l'a donnée au Seigneur, et si on l'a donnée au Seigneur, elle est où? Dans sa mort, ensevelie avec lui, de sorte que notre vie réelle, c'est la sienne, vie de résurrection, celle qu'il a eue et qu'il a reprise après l'avoir donnée. Et cette vie qu'il a vécue pour nous, eh bien, elle est devenue la nôtre. Tout ce que Jésus a été, toutes les perfections que Jésus a eues, est-ce que c'était des perfections pour le manifester lui? Non. C'est pour qu'elles deviennent les nôtres. Nous sommes parfaits de ces perfections, non pas de nos perfections qu'on aurait acquises par nos efforts. Il n'y a rien de nous, tout est de Dieu. Mais nous devons être le terrain où le Seigneur peut manifester sa puissance et sa grâce. L'imposition des mains qui suivait ordinairement le baptême, c'est une identification à la personne avec, à la, pour laquelle on prie. On s'identifie à elle, lui faisant sentir qu'elle n'est plus solitaire, mais qu'elle fait partie de ce corps de Christ, et l'on est un cœur et une âme pour prier avec elle et sur elle, afin que les bénédictions de Dieu lui soient données sans mesure. La doctrine de la résurrection des morts, eh bien, c'est évident que si vous niez la résurrection, vous enlevez la pierre angulaire de tout le christianisme. S'il n'y a pas de résurrection, le Christ n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. C'est le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Le jugement éternel, eh bien, nous n'allons pas nous allonger sur le jugement éternel, car un de ces soirs, nous aurons une réunion sur le Fils de l'homme auquel Dieu a donné le pouvoir de juger. De sorte que nous nous occuperons de tous ces jugements-là, en écoutant la voix du Fils de l'homme. Et alors, vous avez trouvé une septième, tendre à la perfection, bien sûr. Dans cette énumération, il n'y en avait que six. Si vous en avez trouvé sept, tant mieux pour vous. Et bien sûr qu'il y en aurait d'autres, n'est-ce pas? Mais il y avait exactement un six qui était mentionné comme des éléments qui forment le fondement de la foi chrétienne. Bien sûr que le fondement, c'est Jésus-Christ, mais les éléments qui forment ce fondement, ce sont les vérités qui sont en Jésus. Mais cela, ce que je viens d'énumérer, ce n'est que les éléments de la foi chrétienne. Nous devons dépasser cela, parce que ça, ce sont des choses seulement encore terrestres. Nous devons arriver à connaître les choses célestes. Nous devons grandir et devenir vraiment de ces gens qui sont représentés devant Dieu et qui ont conscience de leur vocation céleste. À combien de bénédictions pouvons-nous participer sans avoir réellement la vie de Dieu? Eh bien, vous les avez citées, donc ce n'est pas quelqu'un qui perd son salut, mais on peut avoir été éclairé. Être éclairé, c'était sauvé. Non. On peut avoir goûté du don céleste, car le Seigneur use de grâce envers tous. Et c'est lui qui est le don céleste. Et tout don parfait descend d'en haut. Et qui pourrait dire qu'il n'a jamais eu un don céleste? Tout ce que nous recevons de bon, nous le recevons d'en haut, de Dieu. Et il n'y a pas que ceux qui confessent très ouvertement le Seigneur qui goûtent du don céleste. Mais on peut aussi avoir été fait participant du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a été régénéré, mais quand on est dans une réunion, par exemple, on est sous l'action du Saint-Esprit. On est rendu participant de cette action du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit vraiment, quand on le laisse opérer, eh bien je vous promets qu'il ne produit pas d'abord de la joie dans nos cœurs. Et les prédicateurs qui veulent absolument montrer que le christianisme c'est un christianisme de joie, c'est ce qu'on veut absolument lancer aujourd'hui. Le christianisme de la fête. Festival des festivals, hein. Le christianisme de la fête. Il faut faire des festivals partout parce qu'il faut montrer que les chrétiens sont des chrétiens joyeux. Alors, comme les festivals réussissent dans le monde, que ce soit celui du homard, de la crevette ou des petits pois, eh bien, on fait le festival Jésus. Et gloire à Dieu, maintenant, nous donnons gloire au Seigneur, nous nous réjouissons, et puis on fait des punchs évangéliques, et tout ce que vous voudrez. Eh bien, oui, alors, il y a une note de joie, les gens aiment ça, ils aiment cette musique, même si elle est assourdissante, et puis... au bout d'un certain temps, eh bien, la mode change. Et alors, on est un peu tanné d'une certaine musique, et puis, on trouve autre chose, après le rock, le jerk, et puis après, il y aura encore autre chose, tout ça évangélique. Et puis, on goûte la bonne parole, on a quelques versets, le salut n'y a qu'à croire, hein, n'y a qu'à. C'est tellement simple, hein, puis tout est fait, n'est-ce pas? Puis il y a les lois. Eh bien, on a des miracles chez nous. Et alors, avec ces miracles, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a vu quelque chose, et on témoigne, et puis tout à coup, ces gens-là, qui étaient tout feu, tout flamme, on les voit plus. Ou on les retrouve, ou dans le monde, jusqu'au cou, et même enlisés, descendant le plus profondément possible, il n'y a plus qu'une petite touffe de cheveux et qui dépasse, à moins qu'il soit déjà chaud. Alors, vous vous rendez compte, mais c'est cela. Mais est-ce que c'était des gens qui étaient sauvés? Ils ont eu une manifestation, mais c'était superficiel. Parce que c'est là que j'espère que vous aurez bien compris qu'il faut lire l'Épître aux Hébreux et non pas sortir un texte du chapitre 6 des Hébreux. Car si vous lisez l'Épître aux Hébreux dans son contexte, vous comprendrez bien qu'il n'est pas question d'une perte de salut. Mais quand vous avez eu toutes ces choses, tous ces privilèges, que vous avez une connaissance de la vérité et que vous abandonnez tout cela, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes vacciné contre ces choses. Au lieu d'être gagné, vous êtes vacciné. Vous dites, oh ben oui, moi aussi j'ai levé la main, moi aussi j'ai signé une carte de décision, moi aussi je me suis avancé, on m'avait dit que tout irait bien, puis maintenant, eh bien, j'ai fait des expériences. Et puis on vient nous dire, comment est-ce que vous expliquez que le Saint-Esprit a permis tout cela? On vit avec une autre femme, on vit en concubin, tout ce que vous voulez, et puis on dit, mais c'est le Saint-Esprit, il avait qu'à m'empêcher. Vous comprenez? Et c'est lamentable ce que l'on voit. Mais avec tout ça, on témoigne, avec tout ça, on prend la Sainte Seine. Et on mange et on boit le jugement contre soi-même. Et c'est quelque chose de terrible. On a une vie entièrement relâchée, mais quand même, en communion, on est des sauvés. On a même été baptisés. Baptisés, baptisés. Que même vous ayez été baptisés par immersion, ça ne me rassure pas. Je suis heureux que l'on soit immergé, que l'on passe par les eaux du baptême. C'est vrai, lorsqu'on est conscient de ce que l'on fait, mais vous pouvez très bien, je connais des milieux dits baptistes aux États-Unis, où ça est devenu une forme, à un certain âge, on se baptise adulte, parce qu'on n'a pas baptisé enfant, mais c'est une coutume, et on n'est pas régénéré pour autant. C'est pas la forme du baptême qui vous sauve, c'est de vivre le sens profond du baptême tous les jours de votre vie. Et qu'est-ce que c'est le sens du baptême? Votre mort au péché, votre mort au monde et votre obéissance à la vie du Seigneur Jésus. Alors on peut avoir toutes ces bénédictions, on peut même avoir même fait des miracles, et ne pas être sauvé, c'est ce que le Seigneur dira à ceux qui frapperont à sa porte quand elle sera fermée. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, n'avons-nous pas mangé et bu en ta présence, on aura pris la Sainte Seine, n'as-tu pas enseigné dans nos rues, on aura participé à des camps, à des études bibliques, n'avons-nous pas fait même des miracles en ton nom, on aura été jusque-là, et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Est-ce qu'ils étaient les siens? Non, parce qu'il est dit, mes brebis, je les connais et elles me suivent. Quand il dit, je ne vous ai jamais connu, c'est qu'ils n'étaient pas vraiment des siens. Donc, il n'est pas question là de versets qui nous inviteraient à croire qu'on peut perdre son salut. Alors, sur quoi repose l'assurance de notre salut et la solidité de notre espérance? Sur quoi? Eh bien, les promesses de Dieu. D'un Dieu qui ne peut pas nous mentir. Et sur l'œuvre qui était faite à la croix. Il y a un fait qui ne peut pas être défait, c'est la croix. Jésus est mort sur la croix, personne ne le conteste. Et alors, ce Dieu qui ne peut pas nous mentir nous a fait une promesse. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que je crois que vous avez bien compris ces choses, de sorte que l'assurance du salut nous vient de l'authenticité de la parole de Dieu que l'on croit, parce que c'est Dieu qui nous le dit. Et il ne peut pas mentir. Et quand on croit la parole, le Saint-Esprit vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On a un témoignage extérieur qui est celui de la parole, mais un témoignage intérieur qui est celui du Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché, mais aussi de la justice de Christ. Et puis, alors, pour le monde, qu'est-ce qu'il voit? Nos œuvres. C'est l'assurance du salut. Eh bien, le monde peut voir, mais ces gens sont sauvés, ils ne sont pas comme les autres, parce qu'ils voient nos œuvres, et c'est par nos œuvres qu'ils peuvent être amenés à la vraie foi. Qu'ils voient vos œuvres, et qu'il soit amené à la foi, et alors il y a un fruit qui est produit dans nos vies, et qui est essentiellement, avant même les dons de l'esprit, le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience, la fidélité et la maîtrise de soi. La solidité de notre salut repose sur l'œuvre de Jésus-Christ, non pas sur notre piété, non pas sur ce que nous sommes, mais sur ce que Jésus est et sur ce que Jésus a fait. Et la solidité de notre espérance, c'est que le Seigneur était l'espérance annoncée dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il est venu? Ceux qui ont espéré dans sa venue, est-ce qu'ils l'ont vu? Il y avait un groupe de vivants, hein? Marie en était une de ces femmes qui attendaient la consolation d'Israël. Siméon, Anne et d'autres encore. Et enfin, puisqu'il est venu, nous savons aussi qu'il reviendra. Alors, notre espérance, c'est comme l'encre de notre âme qui pénètre jusqu'où? Là où Jésus se trouve. C'est lui qui est le garant de notre salut. Alors, vous pouvez être ballotté, vous pouvez voir toujours votre misère. C'est vrai qu'on la voit toujours. Hein. Mais cessez, comme je dis quelquefois, de vous regarder le nombril. Il y a toujours de la poussière dedans. Mais même si vous prenez des grandes douches, il risque d'y avoir toujours un peu de poussière parce qu'on est dans le désert et puis le sable entre partout. Mais si vous regardez Jésus, eh bien, vous voyez votre vraie vie et vous avez le droit de dire « Ma vie, c'est celle de Christ. » Et lui, il est mort avec votre vie. Et c'est cela qui est merveilleux. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Seigneur, nous voulons te demander que ce matin encore, ta parole opère dans nos cœurs. Que ce moment que nous venons de passer ne soit pas perdu. Et que nous ne soyons pas de ceux qui regrettent peut-être les activités que nous aurions pu avoir ce matin dehors. Que nous puissions les avoir toute la journée et dans un renouvellement de ton esprit. Et que ce que tu as décidé pour chacune de nos âmes, tu l'accomplisses maintenant. Nous te prions pour ceux qui passent par le deuil, pour ceux qui sont dans les pleurs aujourd'hui, à Nice, pour cette personne qui est venue dans Mahanaïm autrefois, qui a déjà perdu sa fille, qui était avec nous aussi autrefois, et qui maintenant vient de perdre sa mère, que ta grâce soit avec elle et que tu la consoles et que tu accomplisses pour elle tes desseins bienveillants, comme pour nous-mêmes, et que nous puissions continuer de courir la course en Jésus. Amen. Je me...